Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Le point.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du lundi, le podcast consacré au foot et diffusé tous les lundis. Vous êtes bien sur Le Point, on est ravis de vous retrouver après une petite pause et une pause qui a été fatale pour deux personnes puisque le Tacle aujourd'hui joue en infériorité numérique. On salue Thomas Strasbourgeois-Muller et le Turinois Julien Rebucci qui prennent des vacances. Il ne reste que Adrien Mathieu. Bonjour Adrien.
Salut Florent, salut à tous.
Et à la VAR pour arbitrer ce duel, Emmanuel Durgé. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Florent.
Alors, parfois, en infériorité numérique, on joue mieux qu'à 11 contre 11. Donc peut-être que voilà, la règle va encore se confirmer aujourd'hui. Donc nous allons essayer de tacler, puis on va essayer aussi de donner nos coups de cœur, puisque nous venons de passer le tiers du championnat. Donc beaucoup de choses à évoquer, malgré l'absence donc de deux feignants qui sont aux Bahamas, paraît-il. Voilà. Vous le saviez, Emmanuel ?
Oui, aux Bahamas.
Votre chef est aux Bahamas. Adrien, c'est toi qui va commencer, parce que oui. Tu as vu un très beau match hier. Alors, un beau match en Ligue 1.
Oui, ça arrive. Franchement, ce Réunion était un vrai régal et je pense qu'on reviendra un peu plus tard sur la performance rennaise. Mais voilà, on est dans un tacle et du coup, il faut revenir sur quand même cet incident. Alors que l'OL était en plein naufrage hier, deux joueurs ont donc décidé de s'embrouiller pour un anecdotique penalty à 4-0. Des images saisissantes et même inquiétantes d'Oussem Aouar et Lucas Paqueta qui reviennent presque aux mains comme des chiffonniers devant des commentateurs médusés qui n'ont pas hésité à relever cette embrouille. Cela montre malheureusement que l'individualisme et l'omniprésence de la stat obsède de certains joueurs prêts à tout pour embellir leurs prestations au détriment du collectif. En tant que capitaine, Léo Dubois a quand même été obligé de désigner Paqueta comme tireur, alors qu'Aouar est le tireur attitré de l'OL. Il était en l'absence de Moussa Dembélé hier soir. Un conflit rapidement désamorcé devant la presse par les différents protagonistes et l'entraîneur de l'OL. Néanmoins, sans dire long sur la performance lyonnaise, on aurait aimé voir cet orgueil et ce côté belliqueux sur le terrain face à des Rennais inspirés. Voilà, c'est une attitude très inquiétante et le manque de caractère tout au long de la rencontre, même après une vive engueulade de Peter Boss à la mi-temps. L'OL a sombré en Bretagne et ce n'est pas ce pénalty qui changera l'impression générale.
Oh bah, on va être d'accord. Je suppose qu'on va être d'accord, Emmanuel.
Difficile de ne pas être d'accord. Un naufrage total.
C'est un naufrage total. Et c'est vrai que ce que tu dis, Adrien, sur la stat, ça fait perdre la tête aux gens et ça fait perdre la tête au collectif. Et c'est vrai que cet affrontement s'inscrit aussi dans des débats qu'on a eu pendant l'Euro avec Mbappé qui râlait parce qu'il tirait pas les coups de pied arrêtés et les pénaltys. Et on a l'impression qu'il y a un individualisme. Et surtout, quand on est mené 4-0, enfin, on fait pas un débat pour savoir qui va marquer le but de la consolante, quoi. Et c'est terrible. Et ce qui montre finalement que le collectif lyonnais qu'on valorisait en disant c'est une équipe, ça y est, ils sont de retour. Finalement, voilà, le moindre incident, le moindre grain de sable fait revenir les individualités et les égos.
Ah, c'est exactement ça. Ça, c'est vraiment dérangeant parce que, en plus, Lucas Paqueta est normalement le meilleur joueur de l'OL. Et voilà, on a senti vraiment qu'il y avait cette espèce, voilà, d'orgueil individuel après avoir réalisé une performance désastreuse. Alors, certes, c'est lui qui obtient le pénalty, donc il y a toujours cette volonté peut-être de se faire justice soi-même. Mais voilà, c'est vrai que dans le temps additionnel, quand tu prends 4-0, que ton entraîneur a vraiment poussé, apparemment tout le monde était sur place en disant qu'au Roazhon Park, les murs ont tremblé, comme dit l'expression. Et c'est vrai que ça fait grise mine. Et n'oublions pas que aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a une différence de but négative. Donc, même si ce pénalty permet un peu d'embellir les choses, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à Lyon. Même si j'avais l'impression quand même que Peter Boss avait inspiré quelque chose de collectivement, qui voilà, il y avait une ambition technique de pressing. Hier soir, il s'est trompé. On va y revenir. Je pense notamment que Bruno Genesio l'a parfaitement embêté. Mais c'est vrai que quand les joueurs ne respectent pas le plan et en plus se permettent ce genre d'écart, ça doit interpeller. Donc voilà. Juninho a un peu tenté devant les médias de dire non, c'est pas grave, ça, on s'expliquera, on s'est déjà expliqué entre nous, pas de problème. Mais je pense quand même que ce genre de détail peut embêter la saison lyonnaise.
Est-ce qu'il manque pas à Lyon, et notamment au milieu, un patron, pas seulement technique, mais mature aussi, qui a une maturité ? Est-ce que l'effectif n'est pas finalement un peu trop jeune ?
Je sais pas, parce que j'avais le sentiment quand même que Cacré et Guimarès, même s'ils sont de jeunes joueurs, avaient justement cette maturité dans le jeu pour se faire respecter dans le vestiaire. Et on l'a souvent dit, hein, franchement, à 100%, ce milieu lyonnais, normalement, c'est le meilleur de Ligue 1. Sauf qu'hier, voilà, le plan n'a pas marché, l'apport de Thiago Mendes était totalement inutile. Et Paqueta, qui est vraiment ce leader dont tu parles, voilà, hier, il a un peu manqué à ses devoirs. Et c'est vrai que je pense pas qu'il y ait besoin d'un joueur plus expérimenté. C'est peut-être plus devant qu'il faudrait vraiment un attaquant référent, parce que Moussa Dembélé n'est pas là. Ça parle notamment d'un possible retour d'Alexandre Lacazette. Donc à voir si ça peut aider cette équipe lyonnaise. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un gros souci. Même tu l'as dit dans le leadership, hier, on a vu une scène, j'aurais pu aussi la relever, c'est Jérôme Boateng qui engueule Léo Dubois, son propre capitaine. On avait déjà vu ça avec Pogba et Pavard durant Ligue des Nations. C'est le genre de scène qui est en 2021 qui interpelle.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'il y a, il manque un patron. Et quand Léo Dubois, alors on veut pas critiquer Léo Dubois.
On va un peu. Non,
mais on va le critiquer un petit peu. Mais est-ce qu'il a la carrure, le costume pour être le capitaine de l'Olympique Lyonnais qui a de grandes ambitions ? Moi, je ne suis pas sûr. Et c'est vrai que Boateng met l'engueule comme un enfant, quoi.
Vous avez imaginé le vécu de Boateng avec le Bayern Munich, qui a tout remporté, aussi la Coupe du Monde avec l'Allemagne, et qui arrive, voilà, qui se rend compte que le chantier défensif de l'OL est monstrueux et qu'il n'y peut pas grand-chose. Et c'est vrai que le voir, voilà, comme ça, vraiment remonter les bruelles à son capitaine, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Et en même temps, voilà, le choix du capitaine Léo Dubois, ça reposait un peu sur l'ancienneté, tout ça. Mais en termes de performance, voilà, on peut aussi évoquer Dubois en équipe de France. C'est difficile d'expliquer qu'il soit appelé comme ça, alors que franchement, l'impression qu'il nous donne n'est vraiment pas satisfaisante.
Vous avez fait un lapsus, hein. Vous avez dit remonter les bruelles.
J'ai dit remonter les bruelles.
Et on a envie de dire qui a le droit de faire ça à Léo Dubois, en tout cas. Bon, ben merci. Ah, bon, il n'y a pas de tacle, hein. On est tous d'accord.
Non, très
on
bien.
Est tous d'accord, pas de carton, bravo Adrien. Adrien, c'est vraiment le meilleur d'entre nous.
Ah bah, c'est, oui.
Je crois qu'il n'a eu aucun carton depuis le début de saison.
C'est son côté bordelais, le c'est meilleur ça. D'entre nous.
Tout à fait. Alors, pas en Ligue 1, parce que le classement de Bordeaux, on va le rappeler hein, quand même, 18e.
Barragiste.
Mais une défaite très encourageante.
C'est ça, contre le Paris Saint-Germain, mené 3-0. En fait, cette équipe... elle n'est jamais aussi bonne que quand elle est menée, qu'elle est vraiment au fond du trou. Il n'y a plus rien à perdre, on lance un bon nombre d'attaquants et finalement ça revient. Donc voilà, après comme l'a dit Yacine Adli, Bordeaux va jouer les équipes de son championnat, Metz, Brest 3. C'est une dure réalité, mais il faut l'accepter.
On rappelle que Lyon est 7e et déjà à 5 points de la 2e place. Bon, on ne va pas dire combien de points du PSG parce que c'est indécent. Hein. C'est 15 points du PSG. Lyon est à 15 points du PSG après 13 journées. C'est fou.
Ils n'ont pas pris la moitié des points qu'ils pouvaient prendre, je crois. Ils sont juste en dessous.
C'est incroyable. Mais 19, ouais. C'est incroyable.
C'est frustrant parce que dans cette belle Ligue 1, on voit le PSG qui se détache alors que dans le jeu, ils ne sont vraiment pas impressionnants. On a vu qu'il y a des équipes qui ont réussi à les embêter. Bah, Rennes voilà, a réussi à la seule défaite du PSG cette saison. Marseille, même si ce n'était pas assez prononcé, notamment quand le PSG s'est retrouvé en infériorité numérique. Voilà, il y a peut-être Lens, Nice, Monaco qui arrivent, on ne sait pas. Est-ce qu'ils peuvent les embêter ? C'est dommage parce que voilà, s'il y avait vraiment une vraie course au titre comme la saison dernière, je pense que tout serait parfait dans cette Ligue 1.
Alors moi, je vais m'attaquer à l'intelligentsia française qui a fustigé depuis de nombreuses semaines Bruno Genesio. Alors on va dire du bien de Bruno Genesio, c'est pas du tout par flagornerie ou par corporatisme, vous chercherez sur internet, mais il faut féliciter Bruno Genesio qui, lui, n'a pas la carte et se fait attaquer sans cesse. On dit qu'il est pas professionnel, que c'est un entraîneur de bas niveau, on le surnomme Pep Genesio pour mieux le discréditer. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé à Rennes ? Il a redressé ce club qui était en difficulté après le départ de Julien Stéphan. Il gagne contre les gros. Tu l'as dit, Adrien, il a battu le PSG quand même. Hier, il a étouffé Lyon, qui était quand même impressionnant depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'il y avait des intermittences, mais au moins, ils étaient là. Et tu me donnais une stat, c'est-à-dire que le premier tir lyonnais était aux alentours de la 60e minute. Donc, Bruno Genesio a parfaitement su prendre le là de cette équipe rennaise qui est un candidat, qui est une candidate désormais au podium. Et surtout, Bruno Genesio montre qu'il sait faire contre les gros. On se souvient tous de ses matchs en Ligue des Champions où il avait battu Manchester City. Contre le PSG, il avait toujours poser des problèmes aux Parisiens. Et voilà. Et alors, en fait, on ne reconnaît jamais les talents de Bruno Genesio, se moque. Sauf que voilà, bah, c'est un entraîneur du cru qui fait des bonnes choses, qui a finalement un effectif moyen plus, mais qui sait mettre en valeur les jeunes et ses pépites. Donc, bravo Bruno et l'intelligentsia française. Hein, arrêtez avec vos entraîneurs étrangers. Voilà, je reprends un peu le... C'était qui ? C'était Patrick Vieira qui disait ça ou
Comboiré, peut-être.
Ah, c'était Comboiré. Voilà, je fais mon Antoine Comboiré. Vive Bruno Genesio, vive la France.
Non, je pense qu'il y a, un double discours à avoir. D'abord, si on revient sur le contexte rennais avec Bruno Genesio, il faut le féliciter pour le match d'hier parce que tactiquement, il a osé faire quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que son équipe, depuis deux mois, marchait très très bien en 4-4-2, était efficace. Et hier, il a décidé de passer à 3 milieux de terrain pour incorporer le croate, l'ovro majeur. Tu as parlé de pépite et on est face à une pépite pour sa première titularisation en Ligue 1. Voilà, l'ancien joueur du Dynamo Zagreb nous a régalé vraiment une palette, une vista qu'on apprécie chez ce type de joueur. Donc un Genesio qui bouscule ses plans alors que ça marche bien pour intégrer un joueur, je trouve que c'est quand même assez fort, et hier il a eu raison. Et paradoxalement, je pense que le fait de partir en Chine, loin finalement de ce contexte lyonnais qui est assez pesant, parce que Genesio c'est un pur lyonnais, je pense que ça lui tenait à cœur, peut-être trop à cœur, cette mission d'entraîneur du côté de Lyon. On sait que la pression, les critiques des supporters, je pense qu'il a eu des torts du côté de Lyon, tout n'a pas bien marché, notamment bah voilà, on disait que contre les gros c'était une réussite, mais dans les petits matchs, quand il fallait gagner voilà, face à des adversaires à sa portée, souvent il est passé un peu à côté, il a souvent terminé assez loin du PSG, donc il y a des regrets à avoir. Néanmoins, je pense que voilà, le fait d'être loin de cette espèce de pression incessante de Lyon voilà, d'arriver dans un projet un peu plus neutre d'un point de vue des émotions, je pense que ça lui réussit. Et voilà, c'est vrai que son équipe, elle est assez enthousiasmante. On peut le voir sur l'intensité et le pressing hier, c'était assez bluffant.
Alors tu disais son passage à Lyon a été compliqué. Alors il a peut-être été compliqué auprès des supporters lyonnais, mais sur les stats, il est quand même le dernier entraîneur qui a amené Lyon en Ligue des Champions. Il me semble, lui quand il part, en tout cas il laisse un club en Ligue des Champions, il a une stat moi que j'ai retrouvée, il a remporté 58% de ses matchs comme entraîneur de Ligue 1, seul Laurent Blanc a fait mieux, donc voilà, enfin quand même, les chiffres parlent pour lui quoi, Bruno Genesio est un très bon entraîneur de Ligue 1.
Et il peut gagner une Coupe d'Europe cette saison.
Oui, la prestigieuse Conférence Ligue.
Ah, qu'on adore, hein. On adore cette compétition qui est fabuleuse.
Je pense qu'elle fera l'objet d'un tacle le prochain.
Alors, ça dépend si on la gagne, sachant que ça participe aussi à la bonne tenue de notre indice UEFA.
Voilà, on a déjà fait mieux cette saison que la saison précédente en point de vue de notre indice UEFA, donc on doit au moins se féliciter de ça. Moi, je pense que j'ai quand même un gros regret sur la période Genesio à Lyon, c'est de ne pas avoir décroché de titre. Il a quand même eu une génération assez étincelante, avec les Fekir, Tolisso, Lacazette, Umtiti, et ne pas avoir, voilà, être allé chercher un titre avec cette génération-là, moi ça me dérange parce que voilà, on a vu que Lille, on a vu que Montpellier, que Monaco sont allés embêter le PSG, et c'est ma frustration, c'est que cette OL-là, même si OL-là, ça a toujours un petit peu un discours d'épicier en disant attention, regardez nos finances, on fait attention et tout, il y avait moyen, il y avait la place pour moi que cette OL aille chercher beaucoup mieux.
Est-ce qu'il paye pas aussi une sorte de bonhomie ? Est-ce que c'est pas sa personnalité aussi ? Tu disais c'est un pur lyonnais, on l'imaginerait bien en patron de bouchon lyonnais, il a une sorte de sympathie, est-ce que ce côté lisse, il ne le paye pas aussi, est-ce que c'est pas finalement facile de lui taper dessus parce qu'il est gentil?
Bien sûr. Non mais en plus, il y a une hype vraiment là depuis 3-4 saisons, sur les presque depuis Marcelo Bielsa, où quand un entraîneur étranger vient en France, il a tout de suite les mérites alors qu'il a rien prouvé.
Non, je pense que l'apport des entraîneurs étrangers, ça a fait du bien à la Ligue 1 d'avoir des nouveaux visages. Et tu vois, on a une vague d'entraîneurs français comme bah, Laurent Batless, Francaise, qui ont des nouveaux principes. Et je pense que ça fait du bien. Il y a une espèce d'émulation. Et même, je pense que Genesio s'est un peu remis en question. Il a pesé le pour et le contre de ce qui s'est passé à Lyon. Et on le voit que dans ses dispositions tactiques, ce qu'il met en place à Rennes, je pense qu'il s'est inspiré un peu de tout ça pour aller chercher ça. Et tu disais que c'est un personnage lisse. Moi, je pense qu'il a quand même un peu d'orgueil. Souvenez-vous de cette conférence de presse où il avait dit quand même, si je m'appelais Ramirez Sanchez, voilà, je serais beaucoup mieux coté. Donc je pense qu'il a aussi ce côté un peu orgueilleux devant la presse, devant les médias.
Alors, on rappelle que Rennes, je reprends le classement de Ligue 1, est 5e avec 22 points et donc à 2 points de Lens, 2e. est déjà à 12 points du PSG, puisque la Ligue 1, c'est formidable. Il y a deux championnats en un. Le PSG va peut-être être champion à la 25e ou 30e journée.
On verra si ça tient le rythme. On aura une belle course pour la Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'équipes intéressantes. On a des équipes qui sont un peu dans le creux de la vague, comme Lyon, Monaco, Marseille. Mais c'est bien d'avoir Nice, Lens et Rennes, ces outsiders aussi hauts, parce que jusqu'au bout, on aura ce suspense pour la Coupe d'Europe.
Bon, finalement, des tacles qui n'en sont pas, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord. Il faut vraiment qu'ils reviennent, les autres. Parce que là, c'est un trio un peu maléfique.
Rebucci souvent prend le contre-pied quand même.
Oui, Rebucci, il est réaliste. Beaucoup sur le contre-pied. Ouais. C'est bien ça qu'on le reproche d'ailleurs. Alors, on va passer, parce que donc je disais en début de podcast, nous avons passé le premier tiers de la saison à faire un petit bilan. Donc, je vais vous demander un peu votre équipe coup de cœur, celle qui vous a le plus déçu. Donc, on va commencer avec toi, Emmanuel, ton équipe coup de cœur de ce début de saison.
Alors, mon équipe coup de cœur, quand on regarde le classement, c'est forcément Lens, qui est à une place où on ne les attendait pas forcément. Mais plus que ça, moi, ce qui me plaît, c'est peut-être la bataille qui se dessine pour le podium et qui peut rappeler celle d'il y a 3 ou 4 saisons où Monaco, Lyon, tout s'est joué, je crois, sur la dernière journée. Et ça peut être vraiment sympa parce que ça va créer un suspense qui n'existe plus pour le titre. Ça peut aussi avoir le point positif de permettre au PSG de se concentrer davantage sur la Ligue des Champions, même s'ils savent qu'ils vont en prendre plein la figure si jamais ils font un pas de côté en Ligue 1, parce qu'on est toujours là pour leur rappeler qu'on attend beaucoup d'eux aussi en Ligue 1. Mais cette bataille pour le podium qui se dessine fait plaisir à l'équipe décevante. C'est forcément, je pense, Lyon, qui est assez performant en Coupe d'Europe et qui n'arrive pas, qui décroche en championnat par manque de... hier, c'était un mélange sûrement de motivation, de réussite. Peter Bosz disait à la fin du match, on n'a rien réussi, même les passes simples, on les réussissait pas. Alors d'où ça vient, je sais pas, mais je pense que c'est l'équipe la plus décevante de ce début de saison.
Adrien.
Alors mon équipe coup de cœur, je veux dire Montpellier, parce que Montpellier est 6e de Ligue 1, je crois, à cet instant, en ayant perdu quand même Andy Delors et Gaëtan Laborde, son duo phare, et ils l'ont remplacé par Valère Germain, Tricard à Marseille, et je crois Joachini, attaquant remplaçant à Caen, donc un bel exploit, toujours porté par ce TJ Savani enthousiasmant, mais aussi par exemple un Mamadou Sakho qui revient bien en Ligue 1, ils sont allés chercher Olivier Daloguio, qui est connu aussi pour un peu tenter de mettre en place des principes de jeu assez enthousiasmants. Tout n'a pas été parfait. Montpellier s'est des fois trompé défensivement, il y a des largesses, mais au moins c'est une équipe qui ose, et elle est retrouvée à cette place en ayant perdu quand même ce duo d'attaquants qui leur a porté un minimum de 20 buts par saison. C'est assez fort, donc c'est assez intéressant. Et petit coup de gueule, remontrance, désolé Florent, mais c'est pour Monaco. La saison dernière, on était quand même hyper enthousiaste face à cette équipe monégasque portée par Niko Kovac. En ayant conservé vraiment son 11 de départ, j'ai l'impression que quelque chose s'est un peu cassé. Je pense que c'est quand même l'absence de qualification en Ligue des Champions et ce scénario cruel face au Shakhtar Donetsk au match retour. Ça a un peu cassé la dynamique. Par exemple, Kevin Volland n'est jamais vraiment revenu. On sent aussi pareil que Golovin, que Ben Yedder sont un peu dans le creux de la vague. Il n'y a que Aurélien Tchouaméni qui, pour moi, tient un peu son standing. Et ça m'inquiète un petit peu parce que on l'a vu hier contre Reims, Monaco n'a pas vraiment réussi à se procurer beaucoup d'occasions, c'est une équipe en difficulté, donc attention à cette équipe monégasque qui est un peu qui est dans une dynamique négative.
Oui, mais parce que vous voyez ça du petit bout de la lorgnette, Monaco va jouer l'Europa League à fond.
Ça, c'est
et va amener une Coupe d'Europe à la France, mais bon.
On espère.
Ça pense franco-français, très bien. Alors moi, mon équipe coup de cœur, ce sera Strasbourg, parce que gros coup de chapeau à Julien Stéphan, qui a fait de cette équipe qui était un peu ennuyante ou ennuyeuse, je ne sais plus le terme exact, mais en tout cas... On s'emmerdait vraiment quand on regardait Strasbourg l'an dernier. Et là, c'est devenu un peu le foot spectacle. Alors, il faut savoir que Strasbourg est la 3e attaque de Ligue 1. C'est quand même incroyable. Hier, ils ont fait un match top contre Nantes alors qu'ils jouaient à 10 contre 11. Et il y a une sorte de folie avec cette équipe strasbourgeoise. Et je crois que Julien Stéphan y est pour beaucoup. Il a amené ses recettes qu'il avait mises à Rennes, puisqu'il avait remporté une Coupe de France. Et je trouve que il y a une ambiance, la méno, c'est le foot qu'on aime, et il correspond typiquement au bon début de saison de la Ligue 1, avec des parties agréables à regarder, avec des rebondissements, donc chapeau à Strasbourg et chapeau à Julien Stéphan. Et la déception, c'est pas une équipe coup de cœur, enfin une équipe coup de gueule, mais c'est un joueur coup de gueule, c'est Lionel Messi, quoi. À l'image du PSG qui nous ennuie, il fait pas grand chose, il marche, mais comme le PSG finalement, il correspond bien à cette équipe qui a donc 10 points d'avance sur le deuxième, mais on prend pas de plaisir à regarder le PSG. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais même en Ligue des Champions, c'est bon, il y a un petit peu plus d'affrontements, mais sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuie, il y a pas de projet de jeu.
Oui, c'est vrai que le PSG est toujours aussi inquiétant, et on a le sentiment que Mauricio Pochettino attend peut-être le retour de Ramos pour enfin basculer à une défense à 3 et faire jouer Hakimi et Nuno Mendes un peu plus haut, un système que tout le monde pense être le meilleur pour l'état actuel, mais on ne sait pas quand est-ce que Sergio Ramos va revenir, parce que ça fait un mois que le retour est décalé d'une semaine, les informations sont assez inquiétantes du côté du staff médical, et on se dit que finalement Florentino Pérez a eu raison de ne pas le prolonger. C'est vrai que Lionel Messi, on a l'impression que la Ligue 1, c'est pas que ça l'intéresse pas vraiment, mais voilà, ça le prépare plus à être en forme avec l'Argentine pour ses matchs internationaux. Et en Ligue des Champions, voilà, il met un peu le bleu de chauffe, il est déjà à 3 buts avec ce superbe but contre Manchester City. C'est un peu le seul éclat de magie qu'on a eu à présent. Et c'est un peu décevant parce que voilà, on aimerait voir Lionel Messi galvaniser un peu à fond en Ligue 1.
Et puis, il faut voir quand même le classement des buteurs. Parmi les 6 premiers buteurs de Ligue 1, il n'y a aucun joueur du PSG. Voilà, c'est dominé par Gaëtan Laborde, Jonathan David, Andy Delors, Diallo de Strasbourg, Bayo de Clermont et Kasri de Saint-Etienne. Il n'y a pas de joueur du PSG.
Ils ont eu un peu de mal, ils ont eu quelques blessures. On sait que Neymar, c'est assez dur pour lui maintenant d'enchaîner. Je pense que Kylian Mbappé va revenir dans ce top 5 buteurs assez rapidement. Je ne m'en fais pas, mais c'est bien aussi d'avoir, tu vois, des individualités comme ça qui se détachent. Kasri quand Saint-Etienne est au fond du trou, Bayo en tant que promu, c'est bien, ça participe un peu à cette émulation générale.
Mais est-ce que c'est pas finalement positif tout cela, parce qu'on sait que le PSG a un petit coup de mou en février-mars d'habitude, au moment où les attend en Ligue des Champions, et que ça a souvent coincé à ce moment-là. Est-ce que là finalement ils sont pas en train de gérer, ils sont pas en forme trop tôt, et pourtant ils surdominent le classement de la Ligue 1. Est-ce que on peut pas avoir une bonne surprise cet hiver avec une équipe qui est au point finalement?
Non, mais la question de la forme, ok, mais il y a question de niveau de jeu aussi, de stratégie, de tactique. Or là, qui peut dire comment le PSG joue? Enfin, c'est illisible. Et pour être prêt en février, mars, avril, il faut faire ses gammes aujourd'hui. Et on a l'impression que Pochettino, il tâtonne. Un coup, il joue comme ça, un coup, il joue... Voilà, et c'est compliqué, quoi.
On voit pas les progrès au bout de 10 mois. Et voilà, on aura un premier élément de réponse, je pense, avec le retour contre Manchester City. Quand on voit voilà, la dynamique actuelle des Citizens, c'est assez perturbant. Et n'oublions pas que le PSG est passé deuxième de son groupe et du coup s'expose à un huitième de finale contre un Bayern et un Liverpool au début du printemps. Et là, attention, parce que ça va les attendre au tournant. Et vu la dynamique, moi, je suis pas hyper rassuré dans la perspective de la Ligue des Champions.
Un petit mot sur Saint-Etienne.
Quelle est cette équipe? On ne la connaît pas.
Évidemment, qu'est-ce qui se passe à Saint-Etienne? Moi qui regarde ça d'un peu loin, c'est quand même... Qu'est-ce qui se passe à Saint-Etienne?
Je crois que la magie Claude Puel n'opère plus, si elle a déjà opéré. Mais,
C'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que voilà, ça tient plus qu'à un fil la place de Claude Puel. Et les joueurs ont toujours un peu cette espèce de réaction. On l'a vu bah, voilà, contre Angers en retour à dernière minute. Clairement, ils renversent la situation dans le temps additionnel. Je ne sais pas comment ça peut se terminer, parce qu'il voilà, y a toujours la perspective d'un rachat. On a l'impression que ça dure depuis au moins 2-3 ans. Le club est à vendre et ils ne trouvent toujours pas preneur. Donc voilà, c'est vrai que peut-être pour les joueurs, c'est difficile mentalement de se projeter, de continuer à voilà, être mentalement présent dans cette équipe. Je ne sais pas comment ça peut tenir, mais au moins, voilà, il y a cette première victoire ce week-end, donc à voir si ça peut découler sur quelque chose de positif. Moi, je suis quand même très, très inquiet pour cette équipe.
Moi aussi, ouais, je suis inquiet. Je pense qu'ils vont s'en sortir parce qu'il y a plus faible qu'eux. Metz, Brest, Reims, Troyes, il y a beaucoup d'envie, mais on connaît Troyes. C'est-à-dire que c'est l'ascenseur, il y a beaucoup d'envie, joue bien, mais finalement, à la fin, c'est raté, quoi. Voilà, et Saint-Etienne, quand même, Claude Puel, il va être peut-être en mission commando si on le débranche pas avant, et qu'il y a une porte de sortie qui est possible. Bon ben, finalement on n'a pas besoin d'eux. Hein.
Non.
Votez sur les réseaux sociaux.
Doivent-ils revenir?
Nous lançons notre première émission de télé-réalité, notre podcast de télé-réalité. On va passer bien évidemment au pronos.
Deux minutes de bonheur en plus.
Alors, plus de Ligue 1 pendant 15 jours, parce que le retour de l'équipe de France. Alors, qu'est-ce qu'on aime cette équipe de France?
On est enthousiaste.
Surtout qu'il y a un France-Kazakhstan, voilà, qui s'annonce au Parc des Princes. C'est peut-être la seule chose bien de ce match, c'est que ça se joue au Parc des Princes. Donc un petit prono, sachant que si la France gagne, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar, dont on a hâte d'assister à cette Coupe du Monde.
4-0
pour toi, Emmanuel.
3-1.
Et moi je dis 5-1. Avec un triplé de Karim Benzema.
C'est un but de Vinokourov pour le Kazakhstan.
Oh, c'est le passionné de cyclisme qui nous parle. Quelle est la capitale du Kazakhstan?
Astana.
Astana.
Bravo.
L'équipe cycliste, ouais, c'est vrai.
Nous, l'équipe, nous, l'équipe.
Non, mais faites croire que vous avez lu des livres quand même. ne faites pas du sportif, quoi. Voilà, bah merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents.
Merci.
On salue Thomas et Julien qui sont donc aux Bahamas, on le rappelle, hein, ça s'appelle bien au point, hein, ensemble, voilà. Bah, leur famille va être surprise. Passez une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain. Salut.
Le point.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.